Bonjour tout le monde, joyeuse journée d'Halloween, j'espère que vous allez bien. Il y a du monde qui sont déguisés un peu partout, peut-être c'est le cas chez vous, dans votre milieu de travail. On va parler un petit peu d'Halloween d'ailleurs, c'est pas tellement de parler d'Halloween que de recevoir deux comédiens qui font un numéro d'acteur hors pair, surtout qui sont passés maîtres dans l'art de se costumer. Je vais vous parler de la pièce Irma Vep. Irma Vep comme dans... Vampire, c'est la journée pour ça. On se sent de même ce matin. Excusez-moi, je me sens comme ça. Je vais aller voir cette pièce hier soir avec Éric Grenier et Serge Postigot, qu'on va recevoir d'ailleurs en deuxième heure d'émission. Manquez pas ça, c'est vraiment une pièce que je vous recommande, puis on va vous dire pourquoi. Ordi, tablette, cellulaire, on est assez accro à nos écrans. Souvent d'ailleurs, ce sont nos propres enfants qui nous le rappellent. On n'est pas toujours des modèles. On devrait nous aussi, pas juste les jeunes, mais on devrait nous aussi se demander combien de temps est-ce qu'on passe véritablement devant nos écrans. Et ça tombe bien parce que dans les prochains jours, il y a un défi que je vais vous proposer. Un défi qui est lancé par une mère justement qui trouve que va falloir qu'on fasse tous des efforts pour essayer de limiter un peu notre temps d'écran. Mais en première heure d'émission, on va parler tout de suite d'argent. Vous le savez, l'argent, ça nous préoccupe, ça nous occupe beaucoup. Je voyais des chiffres dernièrement sur les faillites au Québec. Puis il y a cette histoire du ministre de la Famille. Vous avez vu sans doute Mathieu Lacombe qui a eu des problèmes de finances personnelles, de sérieux problèmes. Ça s'est retrouvé en une du journal d'ailleurs. On a beaucoup débattu du fait que c'était ou non de l'information qui était publique, à rendre publique. Est-ce que ça vous intéressait, vous, que le nouveau ministre de la Famille ait eu des problèmes financiers? Je veux dire, personnellement, j'ai trouvé que ça le rendait juste plus humain. Je veux dire, qui a jamais eu de problème d'argent dans la vie? Sérieusement. Tout le monde en a à un moment donné. Si t'en as pas eu, ben t'es chanceux. Alors, ce sera pas ceux à qui je vais demander d'appeler ce matin. Vous comprendrez bien que ce que je veux entendre de vos témoignages, c'est vous qui avez eu des problèmes, là, et peut-être même au point d'être acculé à la faillite. La faillite, je lisais dernièrement, puis j'ai pas retrouvé d'où venait cette source-là, mais j'avais lu dernièrement qu'on disait qu'il y avait même presque la moitié, une faillite sur deux, qui aurait pu être évitée. Fait que je trouvais intéressant de revenir là-dessus, aussi parce que, qu'est-ce que vous voulez, aujourd'hui, les temps sont difficiles, puis déclarer faillite, parfois, c'est la seule solution. Évidemment, avant ça, il y a plein d'autres étapes. Est-ce qu'il y a moyen de l'éviter? C'est toujours ce qu'on va vous suggérer. C'est ce que José Pomerleau, en tout cas, va sans doute vous dire. Syndic autorisé en insolvabilité chez Pomerleau et associé. Merci d'être avec nous, José.
Bonjour, Isabelle.
Brigitte Felk, c'est planificatrice financière chez RBC. Brigitte va nous dire que ça commence par une bonne planification.
Tout à fait.
Merci d'être là, bon Brigitte. Matin. Des fois, bon, qu'est-ce que vous voulez? On a la consommation, un niveau de consommation. On est tous là-dedans. On est tous portés parce que les pubs, parce que même les banques nous incitent beaucoup à emprunter plus qu'on devrait. On parlait l'autre jour d'immobilier. Immobilier, parfois, ça peut être une pression. Si bien on nous encourage à devenir propriétaire, mais payer une hypothèque, c'est aussi une pression sur un budget. Des fois, tu changes de job, tu gagnes moins d'argent, tu perds ton travail, tu es malade. Bref, il y a plein d'événements dans la vie qui peuvent faire en sorte que là, tu as un problème. Est-ce que la faillite devrait être considérée comme une solution pour régler nos problèmes financiers? Il y a des gens qui sont amenés à penser ça.
Mais tout à fait. La faillite, c'est une bonne solution aussi, tout comme faire une proposition de consommateur. L'important, c'est qu'il faut se dire que la loi sur la faillite et l'insolvabilité, elle a un but. Permettre à une personne honnête de pouvoir se rétablir financièrement. Bien sûr, il faut qu'elle soit honnête, là. J'insiste.
Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu veux...
Bien, c'est parce que si quelqu'un...
Tu ne demandes pas honnête au Québec.
Ça arrive, mais heureusement, c'est rare. Mais ça arrive.
C'est juste des gens qui font faillite, mais qui, dans le fond, s'en sont mis de côté?
Bien, des gens qui font faillite puis qui ont fait des fraudes. Et ça, c'est des dettes qui ne sont pas libérables. Heureusement.
Oui, 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 tout à
fait. Il y a toutes sortes de mécanismes. De toute façon, un créancier qui pense qu'il a été lésé par une personne peut toujours s'opposer à sa libération.
Toi, c'était arrivé d'ailleurs. Je pense que tu as eu un cas, entre autres.
Ah oui, j'ai eu un cas il y a plusieurs années. Vous savez, la loi sur la faillite et l'insolvabilité, c'est une loi qui est quasi judiciaire. On peut même envoyer quelqu'un en prison à la limite. Ça m'est déjà arrivé, mais c'est un cas, mon Dieu, c'était au début de ma carrière, je pense en 2001, quelque chose comme ça, 2002. Et effectivement, l'argent disparaissait. Il y avait des cartes de crédit, c'était plus de 100 000 $, puis l'argent était parti dans des pays où on pouvait se douter qu'elle ne servait pas adéquatement les intérêts du peuple suite aux événements de septembre 2001. Donc, on a accès à la GRC. Mais c'est
quelqu'un
des cas
qui,
très
qui
rares,
finançait,
là.
Ça a été prouvé, la personne finançait Al-Qaïda?
Ben, je ne sais pas jusqu'à quel point ça a été prouvé, mais je sais qu'elle a fait 18 mois de prison.
OK. Donc, ça peut aller...
Oui, ça peut aller là. Mais c'est parce rare, qu'on fouille. Isabelle, là, ouais, heureusement, parce que ça veut dire... je ne vais pas faire ça toute ma vie.
Ce que ça veut dire, José, c'est qu'on fouille quand même dans... on fouille dans la vie de la personne, pas juste dans son...
Bien, on a un devoir comme syndic autorisant l'insolvabilité de bien évaluer le bilan de la personne, ses revenus, tout ça. Mais aussi, on a le devoir de bien la conseiller. Ouais. Souvent... maintenant, on a accès à la proposition de consommateur depuis 1996. Là, puis en 2009, la loi elle a même été amendée pour s'assurer que les gens aient plus accès encore à la proposition de consommateur. Donc, des gens qui ont suffisamment d'argent, pas suffisamment d'argent en fait pour payer leurs dettes, mais suffisamment pour prendre une entente de paiement sur un maximum de 5 ans. Donc, heureusement, on a ça. Puis d'ailleurs, comme vous avez dit, le ministre s'en est servi, heureusement pour lui. Mais parfois, les gens n'ont pas suffisamment d'argent, n'ont pas un surplus budgétaire là, quand on fait un budget sans le service de la dette là, pour pouvoir faire une proposition. Et là, la faillite devient une très bonne solution aussi.
On va revenir, bien sûr, sur les détails de tout ça, sur la proposition de consommateur et tout, parce que des fois, c'est sûr que ça reste une pression quand même. Ça reste une pression financière. Il faut que tu rembourses.
Oui, mais c'est une pression financière qui est bien calculée, là. Puis elle est négociée, cette proposition-là, avec les créanciers. Donc, si la personne a la capacité de faire un paiement, je vous dis n'importe quoi, de 400 $ par mois sur 5 ans, bien, on va le présenter aux créanciers, on va l'expliquer aux créanciers, on va expliquer le pourquoi du comment aux créanciers. Ils vont devoir se prononcer. J'ai juste besoin qu'il y en ait 50 % des créanciers qui disent oui, puis la proposition va être acceptée, puis elle va lier tous les créanciers ensemble. Mais elle est analysée et de plus en plus, même au début des années 2000, c'était plus ou moins analysé par les créanciers, mais aujourd'hui, chaque proposition est bien analysée. Quand une proposition est acceptée par les créanciers, on est sûr que c'est une proposition qui est viable.
Oui, puis les créanciers ont avantage à... Oui, voilà, ils ont avantage à l'accepter, Brigitte, parce que souvent, d'ailleurs, les banques sont des créanciers.
Oui,
puis c'est mieux d'avoir un peu que rien, parce que c'est ça, la faillite fait que... tout le monde perd.
Bien, la plupart du temps, c'est très rare qu'on va verser des dividendes. On en verse. Là. Les dividendes, c'est les sommes qu'on va distribuer entre les créanciers.
Mais c'est sûr que moi,
pas autant qu'en proposition.
Je ferais appel un petit peu à un bémol à travers ça, parce qu'on parlait tantôt, tu sais, d'avant d'arriver là, d'aller chercher des ressources et de peut-être regarder, est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu être fait avant? Parce qu'il faut comprendre que même si on fait une proposition concordataire, une proposition consommateur, c'est que ça l'affecte le crédit, puis la plupart des gens ne le savent pas. Donc, c'est important de
autant que la faillite ou un peu moins quand même?
Un peu moins.
Mais
une
pas
proposition
moins,
de consommateur, là, tant que vous la payez, vous avez la cote R9. Quand vous avez fini de la payer, la cote R9 disparaît. Et là, c'est la cote R7 qui va être là pendant 3 ans.
OK, explique les cotes un peu.
Bon,
là.
R9, c'est la pire cote de crédit qu'on peut avoir. Et quand elle disparaît, après ça, dans le cadre d'une proposition de consommateur, c'est la cote R7 qui va arriver pour 3 ans. Et la cote R7, ça veut dire que vous avez dû prendre une entente de paiement pour régler vos dettes et que vous l'avez respectée, cette entente-là.
Puis R9, tu l'as pendant le temps que... R9, c'est...
c'est maximum 5 ans ou vous pouvez toujours payer plus rapidement votre proposition. Fait que si vous terminez, vous prenez une entente sur 5 ans, mais vous terminez de la payer après 3 ans, bien R9 va disparaître après 3 ans et là, R7 va embarquer sur 3 ans.
Que ça te fait 6 ans avec une cote, une mauvaise cote de crédit. Là.
Ça peut même aller jusqu'à 8 ans.
8 ans.
Une première faillite, là, c'est 7 ans, une cote de crédit R9. Si c'est une deuxième faillite, c'est 14 ans, la cote R9. Une troisième faillite, on est rendu à 21 ans. Bon, là, on va arrêter là.
Je pense que ce qui est important...
troisième faillite, confie ton argent à quelqu'un d'autre.
Quand on regarde justement toute la cotation au niveau de la cote de crédit, c'est important que le client, en fait, puisse avoir la conversation avec son banquier, avec son conseiller pour voir c'est quoi les impacts, parce que chaque institution financière aura aussi une décision d'affaires à faire avec soit donner l'emprunt ou accorder un emprunt à un individu. Donc, la conversation doit avoir lieu. C'est pas automatique que même si je vois R7 au bureau de crédit, que je vais accorder nécessairement du crédit. Alors,
ben non, moi, ce que je comprends, c'est qu'R7, finalement, c'est pas tellement mieux qu'R9, là.
Non, parce que c'est mal compris par les institutions financières. Parce que R7, dans le fond, on a fini de régler nos dettes. On n'a pas de dettes. Il n'y en a plus. Zéro. Mais les institutions financières, dès qu'ils voient que c'est pas R1, ils considèrent que c'est pas une bonne cote de crédit.
Ouais, c'est une gestion
mais
de
au
risque,
fond,
en fait.
Quand on y pense, R7, c'est pas si pire que ça.
Wow! Aux États-Unis, il faut que tu aies plus que 800 ou 900, c'est ça, de cotes. Et ça peut effectivement varier. Là, dès que tu tombes en dessous de 900, tu as une moins bonne cote, puis ça dégringole rapidement. C'est vrai ce que tu dis, José. J'ai remarqué ça, que les banques en Amérique du Nord, je sais pas trop comment c'est en Europe, mais j'ai l'impression qu'ici, on est extrêmement frileux.
Et non, ben, je vais vous conter quelque chose.
En même temps, ils nous prêtent beaucoup d'argent, des fois trop, puis en même temps... Faut quasiment avoir un bilan parfait.
Dans les faits, là, quelqu'un qui fait faillite puis qui est libéré au bout de 9 mois, par exemple, de ses dettes, 3 ans plus tard, souvent, il va recommencer à avoir une carte de crédit. C'est la réalité.
Oui, alors qu'on devrait dire attention.
Oui, mais moi, je leur dis toujours, si jamais ça arrive, soyez prudent avec votre carte. Considérez que c'est une carte de paiement. Autrement dit, ramenez votre carte à zéro à chaque mois.
Ça m'amène à penser, en fait.
Il y a très peu de gens qui font ça.
Tout à fait. J'aime beaucoup le propos parce qu'il faut regarder aussi la source qui a causé la faillite. Hein, parce que, bon, bien des fois, on n'y échappe pas. Bien des fois, ça peut être parce qu'on a eu une situation de santé. Hein, la maladie, souvent, avec les coûts associés à ça, fait qu'on a des difficultés financières. Fait que c'est toujours intéressant de déterminer quelle est la cause qui a mené à la faillite et, justement, de faire un peu d'apprentissage à travers ça si jamais c'était la dernière solution. Justement, si on doit recommencer à devenir un consommateur, comment on peut accompagner ces gens-là pour ne pas faire la même erreur aussi.
Tout à fait. D'ailleurs, quand on fait une faillite et même une proposition de consommateur, les personnes doivent faire deux séances de consultation avec le bureau, avec la conseillère. Et le but de ces séances-là, c'est de permettre à cette personne-là de découvrir les problèmes qu'elle a eus puis de s'enligner vers une situation financière pour plus qu'elle ait
Et la plupart du temps, vous voyez quoi comme exemple? Les gens sont endettés pour quelles raisons? José, Brigitte?
Souvent, les revenus faibles, trop de dettes, maladies, perte de revenus, accidents, perte d'emploi.
Tu n'as pas dit consommation encore, là?
Ça arrive aussi. Problème de consommation, de drogue, d'alcool, surconsommation.
Mais est-ce que vous voyez surtout... Brigitte?
Dans les faits, en fait, le côté, justement, santé, maladie est très, très...
De plus
haut
en plus?
Oui, tout à fait. Est très, très élevé dans la probabilité de ce côté-là.
Wow.
Mais je pense qu'aussi, on voit dans les statistiques qu'il y a de plus en plus de travailleurs autonomes avec des salaires variables. C'est de plus en plus difficile, hein, au niveau...
De prévoir, de prévoir, faire un budget.
Tout à fait. Il mentionne dans les statistiques que d'ici 2020, on aurait près de 45 % des travailleurs autonomes.
Oui.
Alors, avec une rémunération variable, avec une famille à nourrir, avec des enjeux économiques avec des enjeux politiques. Hein, on le voit, comment est-ce que ça fluctue présentement. Notre économie est très forte, mais par contre, si je suis dans un certain domaine où est-ce que j'ai soit pénurie d'emploi ou mon domaine est beaucoup plus rare, je peux avoir des difficultés avec mon entreprise. Donc, on n'y échappe pas, d'où l'importance de peut-être commencer très tôt à être accompagné d'un conseiller pour justement planifier tout ça. Parce qu'il y a des trucs, et on va peut-être en parler tout à l'heure.
Ben, tout à fait.
Il y a des trucs aussi pour ceux qui ont beaucoup de rémunération variable. Et moi, je suis plutôt du côté optimiste, donc je vais vous donner tous ces trucs pour aider vos auditeurs de ce côté-là.
On va aller à la pause. On revient avec vos commentaires. Dites-moi si vous avez déjà été acculé au pied du mur, c'est-à-dire être obligé de vous poser la question, est-ce que je fais faillite ou non, à mesurer les avantages, les désavantages. Est-ce que vous pensez que ça peut être une solution viable, intéressante pour régler vos problèmes financiers, pardon. Beaucoup de gens qui m'écrivent, qui me disent, ben moi j'y songe parce que je vois pas comment je vais pouvoir me refaire. C'est vrai que on va revenir sur la proposition du consommateur parce que des fois les gens ont l'impression que tu continues de payer, mais dans le fond t'as toujours une mauvaise cote de crédit. On va revenir aussi sur comment savoir quelle est votre cote de crédit. Il y a des gens qui veulent savoir comment le trouver, cette information-là. 514-790-9850. Si vous voulez nous joindre sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. Est-ce que déclarer faillite, ça peut être une solution pour régler vos problèmes financiers? Gilles, vous êtes justement en train de peser le pour et le contre. Vous êtes en train d'évaluer d'ailleurs la possibilité de faire une proposition de consommateur. Racontez-moi rapidement votre situation financière, qu'on comprenne bien les enjeux, Gilles.
Oui, certainement. Moi, c'est combiné aussi avec commercial.
Ah, oui.
Donc, je peux pas penser à la faillite parce que vu que je suis administrateur d'une compagnie, donc faut que je commence par une proposition personnelle parce que moi, la compagnie a été fermée. C'était une résidence de personnes âgées qui a pas fonctionné. Une perte sèche de 275 000 $. Donc, j'ai une poursuite aussi au niveau d'un vice caché du bâtiment que j'ai acheté il y a 5 ans.
Ah, oui.
Donc, je suis obligé de faire de contre-cœur une proposition consommateur, ben j'ai tout perdu, la dernière fonds de pension et tout. Donc,
c'est le quel âge avez-vous? Vous avez quel âge, Gilles?
Là, j'ai 59 ans.
Avez-vous peur de ça? De vous retrouver là, à presque 60 ans sans rien?
Oui, c'est effectivement. J'ai un fonds de pension de 30 ans d'accumulé dans une entreprise à l'STM, pour pas en nommer. Et puis, ça a coûté un divorce, deux cancers, j'ai eu. Donc, c'était pas facile au niveau personnel. Donc là, j'ai décidé de mettre les clés dans la porte. Donc, j'étais plus capable financièrement. À tous les années, je mettais 40 000 $ pour faire fonctionner la business. Ouais. Donc, à cause de la poursuite, c'est, je vais passer l'année prochaine, avoir précisé dans la poursuite. Donc, c'est pas évident. Donc, cadre à cœur, je fais la proposition.
José Pomerleau, syndic
autorisant juste une petite question. Vous avez fermé votre commerce complètement, puis on vous a dit que
Oui, c'est le site Oasis qui l'a fermé parce qu'il voulait que j'augmente mon offre de service au niveau des soins apportés de nuit. Je rajoute j'ai ouvert mes livres, regardez, je suis une perte sèche de 40 000 par année.
Oui, ouais.
Ils m'ont répondu que c'était pas le problème.
Mais donc, vous n'avez pas fait faillite encore, là. Vous avez fermé la compagnie.
Mais vous auriez pu faire faillite aussi. Ouais. Là. C'est
mais il dit qu'il est administrateur.
Mais si vous continuez à administrer votre compagnie, effectivement, un administrateur peut pas faire faillite. Mais là, la compagnie est fermée. Alors, vous pouvez faire une faillite. Là.
La résidence est fermée, mais la compagnie, le numéro n'est pas fermé encore parce que moi, je suis en poursuite. La compagnie est en poursuite. Si je ferme, la poursuite devient comme plus bonne.
Caduque,
oui. Oui, mais de toute façon, vous n'aurez pas les moyens probablement de payer la poursuite, là, je présume. Là, faillite pourrait être une très bonne solution aussi, là, tout autant que la proposition. Mais c'est sûr que vous avez accès à la faillite, ça, j'ai pas de doute. Oui.
Parce que Gilles, des fois, faut... les avocats vont vous le dire, c'est toujours mieux. Je comprends là, que vous avez, c'est important pour vous, là, cette poursuite sans doute, puis on connaît pas les détails, mais des fois, poursuivre, c'est pas toujours la chose qu'on devrait faire. Mais surtout
frais.
Quand on a eu deux cancers, qu'on doit se refaire, peut-être que la priorité dans votre cas, puis là je m'avance, là, mais on jase. Là, hein? Vous prenez ce qui vous convient, puis le reste, vous nous laissez jaser. Mais ce que je veux dire, Gilles, c'est que des fois, c'est plus important de se refaire puis de regarder vers l'avant.
Oui,
exact. Ouais. Et je peux vous le dire, je sais de quoi je parle. Je viens d'une famille d'entrepreneurs où il y a eu il y a eu des gros hauts, des gros bas aussi. Puis des fois, faut que tu tournes la page. T'as pas le choix.
Ben moi, c'est surtout la confiance que les gens qui m'ont prêté, c'est des prêteurs privés, c'est même pas des banques.
Je comprends.
Parce que les banques ne financent pas cette type d'entreprise.
Mais même là.
Mais savez-vous?
Même là, Gilles.
Quelqu'un qui décide de prêter de l'argent, il prend un risque. Il prend le risque que ça fonctionne puis qu'il fasse des intérêts, mais il prend le risque aussi qu'il fasse une perte.
Ouais.
Alors, quand on veut prêter de l'argent comme un prêteur privé,
la vive personne... avec ça. Exact,
oui, exactement.
Exact. Je t'aime si tu me rapportes des intérêts, mais là, je t'haïs si tu perds de l'argent. Ça peut pas marcher de même.
Non. Il prend le rôle de la banque.
Ouais. C'est pour ça qu'il y a de moins en moins de love money, mais ça, c'est un autre. Gilles, on vous souhaite bonne chance. Peut-être Brigitte veut rajouter quelque chose rapidement
en fait,
pour Gilles.
Ce que je retiens, puis il y a sûrement certains cas, comme le cas de Gilles, c'est que les travailleurs autonomes sont passionnés par ce qu'ils font. Ils mettent leur cœur et souvent, on doit injecter de l'argent. Et donc, c'est triste de voir qu'en bout de ligne, on n'est pas capable de réaliser notre rêve qui nous tenait à cœur au niveau de notre entreprise.
Et...
Mais donc, lorsque vous êtes là à injecter constamment des fonds, peut-être de commencer à rencontrer justement des conseillers bancaires pour dire peut-être qu'on va évaluer l'entreprise, on va avoir les états financiers avant de se rendre à vraiment...
Mais ça, Brigitte, je comprends ce que tu dis, puis c'est très rationnel, très logique, puis tu as raison. Sauf que quand tu es en affaires, ta compagnie, c'est comme ton bébé.
Oui,
j'imagine Gilles, là, il pourrait nous parler de son entreprise puis de son centre pour personnes âgées pendant une semaine, puis on l'entendrait passionné et tout, à y croire encore. Tu comprends?
Exactement.
C'est que tu y crois jusqu'à temps que le troc te passe dessus, tu comprends?
Ouais.
Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un proche de toi qui te dise « Arrête! »
Oui.
« Arrête! » T'es en train de te faire laver, t'auras plus rien. Malheureusement, on n'a pas toujours une bonne personne comme ça autour de nous,
oui,
ou un bon conseiller qui veut notre vrai bien et non pas nos biens. Merci, Gilles, de votre appel. On a Sébastien. Bonjour, Sébastien.
Bonjour, Isabelle.
On vous écoute.
Premièrement, là, je suis pas très bon avec l'argent, fait que...
Vous êtes pas tout seul, Sébastien, vous êtes pas tout seul.
Ouais, j'imagine.
Vous êtes bon pour la dépenser, mais pour l'économiser, hein?
Ouais, c'est ça, exact. Donc, en 2008, j'ai fait faillite.
Oui.
Déjà, et bon, je m'en suis sorti là-dedans. J'avais une dette de 20 000 $ que je n'étais pas capable de régler suite à toutes sortes de trucs personnels.
20 000? OK. Puis le 20 000, parce qu'il y en a qui pourraient dire, mon Dieu, 20 000, ça vaut-tu la peine de faire faillite pour 20 000 $? Est-ce que à ce moment-là, c'était vraiment, vous avez calculé, puis c'était vraiment la meilleure décision pour vous?
Bien, c'est la meilleure décision à l'époque, ouais. Dans le contexte où j'étais. Bon, là, l'affaire, c'est que, comme elle expliquait tantôt la dame au, mm-hmm. au début, tu fais faillite une fois.
Ouais.
Tu sais, bon, ça c'est va, temps. Mais la deuxième, ça, ouais. C'est une autre histoire, là. Tu sais, là, les conséquences sont d'autant plus grandes. Et, bon, moi, il y a 2 ans et demi, j'ai fait un arrêt de travail, dépression, anxiété. Là, j'ai des problèmes au niveau personnel. Et ouais. Ça a été extrêmement difficile à vivre. Et, bon, j'avais quand même réussi à me repogner deux cartes de crédit depuis le temps. Mais là, bon, pas des montants aussi élevés, là, 2000 et 3000. Mm-hmm. Et je me suis retrouvé dans une situation où là, je n'étais pas capable de réintégrer mon travail.
Ouais.
Et c'est présentement sur l'aide sociale.
Ouais.
Donc, pensez-vous que je suis en mesure de rembourser, ne serait-ce que le minimum, quand j'ai de la misère à payer mon loyer, quand j'ai de la misère à payer de la bouffe pour ma fille, à payer les frais scolaires et tout. Fait que là, moi, j'ai
mais là, vous décidé, vous dites, est-ce que je peux faire une autre faillite pour 5 000, c'est ça?
Ben, c'est ça, mais ça n'a pas de bon sens. Ça a pas de bon sens
en même temps, le montant paraît tellement peu relativement à ce à quoi on s'attend. José Pomerleau, là-dessus, je trouve que c'est vraiment intéressant, cette question-là.
Un coût qui est,
c'est combien? À partir de combien?
Ce qu'on peut penser, ouais. c'est pas simple.
Non.
Parce que 5 000 $ qu'on est sur l'aide sociale, c'est comme 100 000
c'est
pour un autre.
Oui, c'est ça.
Alors, puis faire une faillite, mais il y a peut-être accès à une proposition aussi, genre 100 $ par mois pendant 50 mois, ça pourrait se faire. Mais encore là, vous serez même pas capable de le payer.
Combien vous en faites? Combien vous recevez, Sébastien, par mois?
Combien je reçois par mois?
De l'aide sociale.
671.
171. 100 piastres, c'est énorme. Ouais.
Donc, même ça, vous ne seriez pas capable de le faire. Peut-être que vous pourriez... De toute façon, en étant sur l'aide sociale, il n'y a pas personne qui peut vous saisir. Vos meubles, vos effets personnels, ce ne sont pas des biens qu'on peut saisir. À moins que vous ayez une voiture, là, ça pourrait être saisissable. Vous pourriez toujours aller au dépôt volontaire. C'est pas mon choix préféré, mais à l'occasion, le temps de peut-être retourner sur le marché du travail puis être capable de régler cette dette-là, au moins, ça va geler les intérêts à 5 % au lieu d'une carte de crédit, c'est du 19 % là. Déjà là, ça va au moins diminuer ça.
Ah, les intérêts sur les cartes de crédit?
Oui.
Oh,
oui, oui
mon Dieu, j'avais oublié ça.
Et là,
vrai.
Le dépôt volontaire, bien, au moins, ça gèle les intérêts à 5 %. Mais c'est une solution temporaire.
Mais il faut rembourser pendant qu'on est au dépôt volontaire.
Oui, mais ça peut être des très, très, très petits montants.
Est-ce qu'il peut dire, regarde, moi, je rembourse 20 piastres?
Oui.
Bien ça, à court terme, en attendant qu'il mais trouve une meilleure façon, ça
je
pourrait
pense
être
que
la
ça
façon.
Ça peut être une bonne solution, mais c'est du court terme.
Oui. Ben moi, je ferais ça, moi, Sébastien. J'irais tout de suite au dépôt volontaire. Comment on fait ça, aller au dépôt volontaire?
Bien, c'est au palais de justice de votre localité. Si vous habitez à Montréal, donc c'est le palais de justice de Montréal. Et puis, vous allez à la section dépôt volontaire. Vous emmenez vos dettes avec vous. Vous les listez, le nom, le numéro de compte, le montant qui est dû. Et puis, voilà. Ça, eux, ils vont s'occuper de faire le reste.
Et
qu'à chaque mois, ben, vous allez leur apporter une somme d'argent.
Que vous en pensez, Sébastien? Ça a-t-il du bon sens à court terme?
Ben à court terme, oui, sauf que moi, j'ai pris une autre alternative, c'est-à-dire, là, 2 ans, j'ai arrêté de payer j'ai arrêté de payer la carte de crédit, les deux.
Oui, mais donc, les intérêts courent toujours, donc, non?
Et là, je vais vous apprendre quelque chose.
Oui.
C'est-à-dire, oui, les intérêts vont courir jusqu'à ce qu'ils réalisent, après quelques mois, qu'il n'y aura pas de paiement fait au niveau de la compagnie de crédit. Donc, eux prennent le dossier et vont l'envoyer chez des percepteurs. À partir du moment où ils transfèrent chez un percepteur, les intérêts arrêtent de s'accumuler. Parce que là, on est sorti de la compagnie de crédit, on ne fait plus affaire avec la compagnie de crédit, on fait affaire avec le percepteur. Et le percepteur, lui, bon, ben, il va vous appeler à tous les jours de votre vie jusqu'à temps que vous le remboursiez. Moi, dernièrement...
Yeah, c'est parce que c'est quelqu'un qui achète votre dette, c'est ça?
Dans le fond, c'est une agence de collection qui achète votre dette, puis oui, ils vous harcèlent. Parfois, c'est 3-4 fois par jour.
Mais non, mais moi, ils viennent-tu à votre porte, là? Ils sonnent chez vous, Sébastien, c'est ce que vous avez choisi?
Ils viennent pas à la porte, de toute façon.
Ils appellent?
Ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais ils appellent de façon récurrente. Et là, dernièrement, moi, je me suis fait une nouvelle conjointe, et elle a vu mes problèmes, elle a dit, ben là, moi, je vais t'aider. Donc, elle a dit, là, prochaine fois que tu t'appelles, tu réponds, puis on va régler ça. Alors, j'en ai réglé un la semaine passée. J'avais 2215 $. Et en ayant ma blonde qui m'appuyait en arrière avec un montant d'argent. J'ai pu faire diminuer cette dette-là à 1 350 $. Mm-hmm. Et je l'ai payé d'un coup. Donc, et là, je passe pas par la faillite, je passe pas par la proposition de consommateur et mon dossier de crédit va se rétablir beaucoup plus rapidement.
En fait, ça va prendre 6 ans. Ouais. Ça va prendre 6 ans, votre dossier de crédit, avant qu'il se rétablisse. Oui, ça arrive. À l'occasion, les agences de collection vont offrir de régler. Mais c'est parce que là, vous avez été chanceux, monsieur.
Oui, vous avez une copine qui vous a aidé.
Mais quand on n'a pas personne, là, c'est compliqué de sortir 1 350 $ là, de sa poche pour aller payer une dette.
Exactement. Ben, écoutez, Sébastien, ça s'arrange, votre affaire. Là. C'est ça qu'il faut comprendre de tout ça. Là, je sais pas. On va aller à la pause. Est-ce que déclarer faillite, ça peut être une solution? Est-ce que c'est l'ultime solution pour régler vos problèmes financiers? Racontez-nous un peu où vous en êtes, si vous l'avez vécu, si vous êtes sur le bord de 514-790-9850. On parle du fait de déclarer faillite ou non. On se dit, est-ce que ça peut être une solution pour régler vos problèmes financiers dernièrement? Ben, c'est en fait un peu le cas du ministre de la Famille qui nous a donné envie de fouiller un peu ce dossier-là. On s'est rendu compte, vous avez vu cette histoire, là, je vous la rappelle, le nouveau ministre québécois de la Famille, Mathieu Lacombe, qui aurait cumulé des dettes, puis qui a failli faire faillite, puis qui expliquait finalement qu'il a fini par être obligé de faire une proposition de consommateur pour se refaire parce qu'il y avait des paiements d'hypothèque, de maison, 2 enfants, puis une situation précaire d'emploi. Je veux dire, ça, là, ça te rend juste plus humain dans la vie. D'ailleurs, vous avez vu, ça a duré 24 heures, cette pseudo-crise, puis tout le monde a compris que peut-être ça y est arrivé à lui, mais ça peut tous nous arriver à nous. Peut-être que c'est votre situation, d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a plein d'éléments. Toutes choses étant égales par ailleurs, il y a plein de facteurs qui peuvent faire en sorte que vous êtes acculé au pied du mur. La faillite semble être la seule option. Il y en a d'autres toutefois. C'est ce qu'on dit, la proposition de consommateur, c'en est une. On vient de parler du dépôt volontaire. Mais au-delà de ça, puis là, on recule un peu dans notre tentative de prévenir ça. Ce que Brigitte Felks, qui vient du milieu de la planification financière, essaye de nous dire, c'est justement ça, Brigitte, qu'il faut planifier, il faut essayer d'éviter ça. Pas toujours évident.
Non, c'est sûr.
Et il va se joindre à notre conversation Normand Caillé, qui est un cadre supérieur à la retraite du milieu bancaire, près de 40 ans dans 2 banques différentes au Québec. Normand, vous en avez vu de toutes sortes, là, des gens qui ont été pris à la gorge, beaucoup parce que ils ont très peu de connaissances financières, finalement. Il nous manque cette littératie financière au Québec.
Bonjour Isabelle, bonjour à vos intervenants. Ben, effectivement, vous, d'entrée de jeu, vous soulevez un point très important parce que les gens ne sont pas tellement au courant de la façon dont ça se passe. Et je pense que ça devrait commencer par ce côté-là. Mais reste qu'il y a des gestes à poser pour, et vos intervenants en ont fait mention, mais j'en ai vu, oui, de toutes sortes, mais il y a évidemment des gestes à poser de la part des clients eux-mêmes, de la part du gouvernement, de la part des banques, pour pouvoir prévenir à toute fin les catastrophes au niveau des gens qui vont déclarer faillite pour toutes sortes de raisons. Entre autres, je regarde le côté des cartes de crédit, par exemple, ouais, qui aujourd'hui, je dirais, à mon avis, est un fléau en termes de l'utilisation qu'on en fait et des maximums que l'on donne aux gens. Alors, si j'avais un point à soulever, moi, ce serait ce côté-là des cartes de crédit où vos intervenants vont être d'accord avec moi. Une grande majorité des jeunes aujourd'hui ne paient que la partie des intérêts, oui, et ne remboursent jamais le capital.
C'est ça.
Et ça,
exactement.
On traîne ça tout au long de notre vie et ça coûte énormément cher. Bien que les taux hypothécaires, par exemple, soient les plus bas historiquement, on a de la misère à penser, et je le soulevais à votre exercice, comment on va faire quand les renouvellements de 2019 vont arriver, et on sait qu'ils vont se maximiser entre le mois de mai et le mois d'août, et où on risque d'avoir, là, si on se réfère à il y a 5 ans, au niveau des taux d'intérêt, une augmentation d'à peu près 1,50 de plus sur les prêts hypothécaires. Comment les gens vont faire pour pouvoir accepter une augmentation de 200-250 $ par mois d'hypothèque? Et vous parliez tantôt de comment on peut se préparer à éviter la catastrophe au niveau des faillites. Il y a tellement d'éléments que je pourrais passer une heure à vous en parler ce matin. Mais par contre, il faut soulever aussi, je parle des nouvelles dettes, les dettes du 21e siècle.
Ouais.
On a une nouvelle dette là qui est plus accentuée dans les 15 dernières années, qui se situe, à mon avis, au niveau de ce que j'ai vu, là, d'une dette électronique. Ce qu'on n'en voyait pas avant et ce qui peut faire, dans plusieurs cas, basculer les individus au niveau de passer ou de ne pas passer au travers. j'appelle ça la dette du sel, la dette de l'Internet et la câble-distribution.
Ah ouais.
Qui, il y a 15 ans ou à peu près, là, n'existait pas et qui aujourd'hui, là, dans plusieurs des cas que j'ai pu constater, là, se peut se chiffrer à 400 à 500 $ par mois.
Oui, tout à fait. Et, Alors, vous avez tellement raison, Normand Caillé, de nous le rappeler, parce qu'on en parlait la semaine dernière. Il y a le CRTC là, qui a tenu des audiences, qui est en train de voir si les compagnies de télécommunications abusent pas et tout. Puis d'ailleurs, je lisais quasiment les conclusions avant même que le rapport final soit écrit, qui semblait dire, ben non, finalement, il n'y a pas vraiment de mauvais agissements de la part de ces entreprises-là. Voyons donc, fais pas exprès d'être aveugle. Là. Je veux dire, il y a un grand manquement, à mon avis, de la part du CRTC dans ce dossier-là. Mais vous avez raison de dire que c'est les nouvelles dettes du 21e siècle. Et nos jeunes, puis je sais que vous avez deux fils qui vous trouvez eux-mêmes ont accès à un peu trop de crédit facile. Les jeunes vont avoir de la misère. Je ne sais pas si c'est vous qui payez leur compte de téléphone, mais quand ça va être à eux non. de le payer, ça va pas être drôle.
Non, je le paye pas, Isabelle. Non, mais, il reste, non, je le paye pas. Ce sont quand même des jeunes adultes.
Ouais.
Mais il reste une chose. Ils sont à l'affût de la consommation comme n'importe qui d'autre.
Ouais.
Et ils veulent avoir le dernier iPhone. Ils veulent avoir Netflix. Ils veulent avoir peu importe ce qu'on va ajouter à leur offre promotionnelle. Ils veulent l'avoir. Ils veulent être de leur temps. Mais il faut qu'à quelque part, votre recherchiste me disait quel conseil donneriez aux jeunes? Tu pourrais leur en donner une centaine, mais il faut penser à les aider. Et comment on peut les aider? Ben, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Exemple, on parle d'une dette importante qui est les hypothèques.
Ouais.
Évidemment, quand je voyais mes conseillers hypothécaires rencontrer des jeunes couples, je dirais, là, entre 25 et 40 ans, et où on leur disait, par exemple, vous êtes rendu, là, dans votre choix d'achat, là, vous êtes rendu au maximum de votre ratio d'endettement. Pourriez-vous revoir un peu votre achat à la baisse? Quitte à revenir un petit peu plus tard dans le courant de votre vie.
Ouais.
Non, 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 ils veulent avoir la maison qui leur plaît là, à 100% et ils pourraient se contenter peut-être d'un immeuble à 25, 50 000 de moins qui leur permettrait d'être un peu plus à l'aise pendant les 5 premières années qu'après ça, de pouvoir partir quelque chose avec plus d'envergure. Non, ils ne le font pas.
Ben oui, souvent, les premiers chèques de paye des jeunes, ça sert à acheter des biens qui se déprécient presque automatiquement, genre une voiture.
Ouais. Salut Isabelle, j'ai entendu vos intervenants parler de certaines causes qui mènent à la faillite,
ouais.
dont une très importante, c'est-à-dire la santé.
Ouais.
La santé qui fait en sorte qu'on a de plus en plus de travailleurs autonomes,
ouais.
qui ne font pas partie des programmes d'assurance de grandes compagnies qu'on avait antérieurement. On a des jeunes qui travaillent à temps partiel ou ils n'ont pas accès à ça. Et plus de 1 sur 2 clients hypothécaires n'a aucune assurance invalidité sur son prêt.
Ouais.
Alors, quand il arrive un pépin, qu'un ou l'autre des conjoints, ou s'ils sont seuls, sont malades pour n'importe quelle raison, puis qu'ils se retrouvent avec un prêt hypothécaire de 1 000, 1 200 par mois sans aucune assurance invalidité, comment ils s'organisent?
Ouais.
Ils s'organisent pas.
Mais savez-vous pourquoi les gens ne payent pas normal? Vous savez, les banques n'ont pas de bon sens quand elles nous proposent des tarifs pour assurer les prêts. La dernière chose que tu fais, c'est de prendre l'assurance que la banque te propose. Tu es aussi bien d'appeler une compagnie d'assurance et tu dis, voilà, je voudrais une assurance de temps. Tu couvres le coût de ton hypothèque ou le coût de ton prêt, mais tu prends pas le prêt de la banque. Là. Tu prends pas l'assurance de la banque. On s'entend?
Je veux pas aller dans ça parce que je veux pas faire ni du bashing de banque ce matin. Ils m'ont bien servi pendant 40 ans, mais j'irai plus sur le choix d'en avoir une ou de pas en avoir une par rapport à où on l'apprend. C'est-à-dire que quand on arrive avec un maximum d'endettement, quand on a établi notre prêt hypothécaire avec notre conseiller, puis qu'il nous lance un 100, 150 $ par mois pour prendre l'assurance invalidité, la réponse c'est quoi? C'est non, j'ai pas les moyens.
Mais non, c'est ça.
Mais on devrait se trouver les moyens de prendre ça par rapport à d'autres choses. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Par exemple, aujourd'hui, là, on peut facilement aller sur un site de n'importe quelle banque, n'importe quelle institution financière, si on a une carte de crédit et demander une augmentation. Si j'ai une limite de 2 000, je devrais facilement être capable d'avoir une limite de 4 000 là, en dedans de 15 minutes. Mais si j'ai décidé comme contribuable de dire j'en ai peut-être un peu trop de limite sur ma carte, je ne peux pas le faire via le site Internet. On n'accepte pas une diminution de carte. Il faut que j'appelle.
Ah ouais, c'est ça. Ouais.
Alors, évidemment, les banques ont un rôle à jouer. Ils font pas toutes de bien, ils font pas toutes de mal, mais chacun a un rôle à jouer. Mais avant de penser là à aller voir là les gens qui s'occupent des faillites, dont plusieurs font des annonces chez vous à 98.5, là, essayons de les prévenir. Essayons de trouver quelque chose qui va faire en sorte qu'on ne se rendra pas là. Mmh,
tout à fait. Merci beaucoup. Merci, Normand Caillé. On va aller à la pause. Normand Caillé a travaillé pendant près de 40 ans dans le milieu bancaire. On va revenir avec des outils, justement, de prévention tout de suite après la pause. On va dire un peu comment faire un peu mieux, là. Prenez des notes. À tout de suite, tout le monde. Bonjour, Sylvie. Je pense que vous avez fait, il y a quelques années, une proposition de consommateur. Avez-vous trouvé que c'était une bonne solution pour régler vos problèmes financiers?
Bonjour. Oui, ça a été bon pour moi. Je vais aller en gros là, comment ça s'est passé. Moi, je suis travailleur autonome. J'étais en couple depuis plus de 20 ans. Mm-hmm. Puis c'est moi qui avais les cartes de crédit, les prêts, tout ça. Puis suite à la séparation, j'avais zéro de la part du conjoint. Là, et ça a été vraiment difficile comme séparation.
Ouais.
Moi, j'ai choisi de laisser la maison pour mes enfants. C'est une décision que j'ai prise. Par contre, il y avait un coût à tout ça. Je devais payer les dettes qu'on avait engendrées en famille. Je me suis tournée vers la proposition de dette parce que j'y arrivais pas, là. Puis, oui, ça a été bien. Au lieu de prendre 5 ans, ça m'a pris 4 ans, je l'ai payé. Mais par contre, aujourd'hui, comme j'ai une carte de crédit, puis j'ai une marge de 500 $ juste en cas de pépin, puis il m'avait donné 6 000, j'ai dit non, j'en voulais pas. Je veux vraiment, aujourd'hui, pas travailler, pas vivre avec de l'argent sur des cartes de crédit. C'est la pire chose à faire.
Ouais. Puis, vous avez appris votre leçon, finalement, là-dessus, Sylvie.
Ah, c'est clair. Mm. Puis ça a été vraiment difficile de me relever parce que j'ai parti à zéro, là, aucun ménage, rien. J'avais juste mon linge, puis c'est tout.
Ouais.
J'en ai fait une crise de cœur. J'étais morte dans l'ambulance. Mais oh, par contre, Dieu. Je me suis relevée de tout ça. Puis c'est encore difficile, je vous dirais. C'est pas le nirvana, là. À tous les jours, c'est difficile, mais ça va de mieux en mieux.
Oui.
Puis la proposition de dette, ben, pour moi, ben, c'est ce qui m'a sauvé. Là,
mais merci. Merci beaucoup de votre histoire. Merci, Sylvie. José Pomerleau, Brigitte Fex, on voulait aller dans les outils. Là. Visiblement, la proposition de consommateur peut en être un outil c'est viable. Fait. On en a parlé. Brigitte, là-dessus, oui, tu voulais revenir sur des points importants.
Sur M. Caillé, oui, c'était extrêmement intéressant ce qu'il mentionnait. Puis, en fait, on parlait vraiment qu'on est dans l'ère virtuelle, hein, dans l'ère électronique. Et moi, j'ai un adolescent, comme vous savez, 17 ans. Puis, bon, la consommation est très rapide. Aujourd'hui, avec les applications téléphoniques, on appuie notre téléphone sur, bon, le système électronique et la dépense rentre automatiquement dans les comptes bancaires. On ne sait plus où est-ce qu'on est rendu. Le budget est dépassé. Donc, autant on est dans l'ère virtuelle pour les consommations, mais autant on a de l'ère virtuelle pour notre accompagnement budgétaire, qui est une application sur les téléphones cellulaires. Je donne par exemple celui de RBC qui s'appelle Nomi, N-O-M-I. Puis vous pouvez avoir des alertes lorsque vous avez certaines sommes qui passent dans vos comptes bancaires. Si votre compte bancaire est déficitaire, toutes les dépenses sont là. Vous pouvez faire vraiment des calculatrices de budgétisation. Donc, c'est extrêmement important de connaître ces outils. Ce que j'aimais, c'est qu'il mentionnait aussi que toute commence par soi et comme l'auditrice qui vient juste de parler, on fait des choix. Et donc, il faut être conscient aussi. On parlait des d'endettement hypothécaire qui est la plus grande source d'endettement, hein, pour un ménage, pour un individu. Et quand on se fait qualifier effectivement dans une banque, on parle de l'ATD, donc l'endettement total, et qui est basé sur votre salaire brut par rapport aux dépenses. Et on vous accote vraiment au niveau du ratio d'endettement. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que quand on calcule l'endettement, c'est de l'endettement bancaire, mais on n'a pas calculé vos dépenses et votre style de vie.
Voilà.
Alors, c'est important de faire l'exercice à la maison aussi, de regarder, bon, avec la mensualité que ça coûtera une propriété.
Et mes besoins
quotidiens. Et mes besoins, mon style de vie. J'ai-tu 3 enfants? J'ai-tu des sports à payer, de l'équipement, des garderies?
Alors, il faut faire les calculs. En fait, il faut s'asseoir. La plupart des gens n'aiment pas ça, mais il faut se forcer à le faire, Josée.
C'est vrai, c'est fastidieux à faire un budget, mais c'est révélateur. C'est révélateur sur notre capacité de payer des dettes. ou de mettre de l'argent de côté. Et éventuellement même autant que possible faire un fond de roulement.
Voilà. Oui. Merci beaucoup. Excellent. Merci beaucoup à toutes les deux. José Pomerleau, syndic autorisé en insolvabilité chez Pomerleau et Associés. Brigitte Felks, planificatrice financière chez RBC. L'application, c'est NOMI, tu dis?
N-O-M-I.
N-O-M-I. Il y en a plein d'autres fouillés. Puis il y a même les ASSEF ont des propositions pour partir sur un budget. On aura l'occasion de vous en reparler. Il y a plein de gens qui m'ont écrit là-dessus. On se retrouve après les nouvelles. Restez là, tout le monde.